Bonsoir et bienvenue dans cette émission. La situation reste incertaine dans les secteurs nord du lac Édouard depuis les incidents des jeudi à samedi dernier qui ont impliqué les armées congolaises et ougandaises, causant mort d'hommes de part et d'autre. En réaction, dans une lettre adressée lundi dernier au président ougandais, les députés congolais Mwindo Nzangi lui demande de s'impliquer pour résoudre ce conflit qui risque d'avoir des conséquences graves étant donné que des situations similaires sont déplorées dans cette zone. Quelle analyse faire de cette situation? C'est l'objet du débat de ce soir. Participe à cette émission Adélard Mumbere, il est directeur de cabinet adjoint du ministre congolais de la pêche et élevage. Bonsoir monsieur Adélard Mumbere.
Bonsoir monsieur le journaliste.
Mwindo Nzangi, député national de l'opposition et élu de la ville de Goma au Nord Kivu, il est aussi cadre du MSR, parti membre du G7 et membre de la plateforme Ensemble pour le changement. Bonsoir honorable Mwindo Nzangi.
Bonsoir à tous les auditeurs de la partie et bonsoir à vous.
Et professeur Boendoua Elouga Essi, directeur du Centre de recherche et d'études sur l'Afrique orientale et des Grands Lacs. Il est aussi recteur de l'université Julius Nyerere de Bukavu au Sud Kivu. Bonsoir professeur Boendoua Elouga Essi. Voilà, il n'est pas encore là, il va nous rejoindre. Une fois de plus, bienvenue à tous dans cette émission.
Vous pouvez continuer à envoyer vos réactions en appelant au 081 890 66 78 ou nous écrire par SMS au 081 051 57 78 et par mail, écrivez-nous à dec@radiookapi.net.
Au Nord Kivu, la situation reste encore tendue dans les secteurs nord du lac Édouard en territoire de Béni. Depuis les incidents de vendredi dernier et qui ont impliqué les armées des deux pays, seule la marine ougandaise naviguerait sur cette partie du lac, empêchant ainsi tout accès aux pêcheurs congolais des Kavinyongé. Le député national Mwindo Nzangi, dans une lettre adressée lundi au président ougandais, demande l'implication de Yoweri Museveni pour résoudre ces conflits qui risquent d'avoir des conséquences graves. Reportage de Bernardin Nyangi.
Depuis ces incidents le 6 juillet dernier, le gouvernement congolais n'aurait diligenté aucune action concrète pour résoudre cette question par la voie diplomatique, a déploré mardi le député Mwindo Nzangi. En effet, au lendemain de cet accrochage, qui aurait fait au moins 5 morts côté ougandais et 2 blessés côté congolais, la confusion règne sur les responsabilités dans cette attaque. Selon certaines sources dans la région, arguant que leurs assaillants seraient des miliciens Maïmaï congolais, la marine ougandaise aurait renforcé ses équipes de patrouille sur le lac Édouard. Là, des actes de représailles ont vite été enregistrés. Au moins 7 pirogues des pêcheurs congolais de Kavinyongé ont été prises pour cible par cette armée ougandaise samedi dernier. Seul un des pêcheurs aurait survécu à cette attaque. 11 est resté à portée disparus jusque-là, selon les dernières précisions données à Radio Kapi par M. Mumbere Adélard, directeur de cabinet du ministre congolais de pêche et élevage en mission à Kavinyongé. Les sources proches de la force navale congolaise, qui disent aussi ne pas reconnaître officiellement l'identité de la force ougandaise contre laquelle elle s'est confrontée le 6 juillet, se seraient abstenues d'accéder au lac en attendant l'issue d'une enquête que le mécanisme conjoint de vérification de la CIRGL devrait mener. Pour l'instant donc, la situation reste incertaine dans ce secteur nord du lac Édouard. Les familles des pêcheurs disparus ne peuvent pas retrouver les corps des leurs et pendant ces temps, au moins 92 autres pêcheurs congolais, arrêtés aussi par la marine ougandaise, restent détenus dans les prisons ougandaises de Katwe et Rwachama. Et dans sa lettre au président Museveni, le député Mwindo Nzangi voudrait aussi que des sanctions soient prises contre les marins ougandais qui aurait déjà fait de l'arrestation des pêcheurs congolais un fonds de commerce. Le député voudrait aussi qu'une nouvelle réglementation soit conclue par les deux pays pour une gestion pacifique des ressources halieutiques du lac Édouard. Goma, Bernard Nyangi, Radio Kapi.
Merci à vous Bernard Nyangi. Le gouvernement congolais n'est pas resté indifférent face aux incidents du 6 juillet ayant entraîné la mort des pêcheurs congolais du lac Édouard dans le Nord Kivu. Une commission interministérielle est mise en place et va se rendre sous peu à Goma pour entreprendre des pourparlers avec la partie ougandaise. C'est la réaction du ministre des Pêches et Élevage à la correspondance du député national Mwindo Nzangi adressée au président ougandais lundi, lui demandant de s'impliquer dans la résolution de ces conflits qui risquent d'avoir des conséquences graves. Daniel Tamizoni pour plus de détails.
Dans sa réaction, le ministre Daniel Paluku Kisakayirihiri fait savoir que la délégation du gouvernement congolais sera composée des experts de son ministère de pêche et élevage directement touchés, ceux du ministère de la Défense et Sécurité et de ceux des Affaires étrangères. Il dresse un bilan lourd de ces incidents.
Les bilans actuels fait 12 pêcheurs, informations vérifiées effectivement avec la délégation du gouverneur de province, 12 morts du côté congolais de nos pêcheurs, 92 pêcheurs arrêtés en Ouganda. Ils sont maintenant jusqu'à présent en prison. 20 pirogues, 25 moteurs hors bord, toujours retenus en Ouganda.
Le ministre appelle au calme les habitants de la zone touchée par ces incidents. Quant à une décision interdisant la pêche sur le lac Édouard, le ministre répond à ces termes.
Jusque là, au niveau de Kinshasa, nous n'avons pris aucune mesure. S'il y a une mesure interdisant la pêche momentanément, elle serait peut-être prise par le gouverneur de province dans le cadre de prévenir tout danger qui peut survenir sur le lac.
Cette mesure préventive pourrait être levée une fois les corps des 12 personnes tuées sont retrouvés et enterrés, a dit le ministre Daniel Gérigéré.
Merci à vous, Daniel Taminzoni. Monsieur Mumbere Adelar, vous êtes directeur de cabinet adjoint du ministre congolais de la pêche et élevage. Et qu'est-ce qui s'est passé exactement entre jeudi et samedi dernier sur le lac Édouard et qui explique toutes ces tueries? Vous avez donné les chiffres des 12 pêcheurs qui ont été tués et 92 et qui ont été arrêtés en Ouganda. Qu'est-ce qui s'est passé exactement pendant cet espace de temps?
C'est vraiment une situation déplorable. Il s'est passé dans la localité de Kavinyongé et aux environs, donc au sein des pêcheries autour du lac Édouard, il y a un deuil réel parce que au jour du jeudi et vendredi du 5 et 6 juillet 2018, il y a eu des tueries. Des militaires ougandais UPDF qui se sont rendus sur les eaux congolaises et qui se sont mis à tuer des pêcheurs congolais, à les massacrer inhumainement, à les jeter dans les eaux. Et jusqu'à présent, les corps sans vie continuent à giser soit à profondeur des eaux ou sur même les eaux. Et à part ça, il y a des implants de pêche, des moteurs hors bord et des pirogues arrêtées, et même des pêcheurs congolais dont l'estimation va à 92 pêcheurs arrêtés, les uns à Rochama et les autres à Katwe. Ça crée vraiment une panique et un deuil généralisé à Kavinyongé et environ et au sein des pêcheries autour du lac Édouard.
Oui, monsieur.
C'est pas le premier forcé, oui.
Monsieur Adelar Mumbere, vous nous informez, n'est-ce pas, que vendredi dernier, des militaires ougandais se sont permis, n'est-ce pas, d'aller jusque là où se trouvaient les pêcheurs congolais et ils ont tué, ils ont même arrêté certains parmi eux. Et qu'est-ce qui a poussé ces militaires ougandais à aller commettre ces actes?
Je pense que les militaires ougandais ne sont pas allés au premier forfait. Nous sommes toujours informés de toutes les opérations qui se passent sur les eaux congolaises. Il se passe en Ouganda une pratique mafieuse qui consiste à arrêter en récurrence les pêcheurs congolais sur les eaux congolaises et en les libérant que, moyennant une rançon. Nous enregistrons plus de 21 649 poissons pillés par les Ougandais entre 2017 et 2018, soit une moyenne de 86 poissons par famille et par semaine. Nous enregistrons aussi plus de 350 personnes torturées dans les prisons ougandaises à l'issue de multiples arrestations arbitraires et récurrentes et qui sont libérées moyennant une rançon. Nous enregistrons aussi, la fois passée, la mort de 12 pêcheurs congolais tués à bout portant, sciemment et volontairement par les militaires ougandais du PDF sur les eaux congolaises. Bon, voilà pourquoi est-ce que nous disons que c'est inadmissible, insupportable C'est trop.
Monsieur Adelar.
Oui,
quand vous dites que les militaires ougandais ne sont pas à leur premier forfait, il y a un trafic mafieux, vous rappelez cela. Et quel a été, après ces affrontements qui ont causé mort d'homme, et quelle a été la réaction du gouvernement congolais?
La première réaction du gouvernement congolais, à travers le ministère qui s'est senti le plus touché, c'est donc le ministère de pêche et élevage. Moi, personnellement, j'ai reçu instruction de la part des ministres de tutelle qui m'a demandé d'aller vite au lieu de drame pour m'imprégner de la réalité. Parce que autour de ces tueries, il s'est passé plusieurs bilans, hypothétiques bien sûr, et il fallait quelqu'un qui soit à même de récolter des informations réelles et de les présenter au gouvernement. Déjà, moi, le 10 et plutôt le dimanche 8 juillet, je suis arrivé sur le terrain, accompagné de l'administrateur des territoires. Nous avons eu à nous rencontrer avec le comité de sécurité locale qui nous a présenté le bilan réel. C'est à partir de cette rencontre que nous avons trouvé le bilan des 12 pêcheurs et 92 pêcheurs emprisonnés. Ça, c'est d'abord la première action pour que le gouvernement central s'imprègne de la réalité des faits. 24 heures après, nous avons reçu une délégation du gouvernement provincial qui est venu se joindre à nous et que nous avons dépêché évidemment en Ouganda en attendant que les décisions du gouvernement central soient prises en marche. Et nous avons communiqué toute information au gouvernement central. Et nous avons reçu une information de la part du ministre de Pêche et Élevage, Paluku Kissa Kayirayere, qu'une délégation est en train d'être diligentée pour parler avec Kambala. Donc les démarches sont en cours. Et je crois que sous peu, comme je l'ai dit, sous peu, on pourra atteindre l'objectif.
Oui, monsieur Adelar.
Le grand problème, oui.
Oui, il y a ce mécanisme conjoint de vérification. Pourquoi, sous le plan diplomatique, la RDC n'a pas saisi ces mécanismes?
La RDC n'a pas fait quoi?
N'a pas saisi ces mécanismes conjoints de vérification. Pourquoi la RDC n'a pas saisi ces mécanismes?
Bon, nous sommes devant les faits. Nous sommes devant les faits. Et le fait réel, il est là. Et c'est une question de relations bilatérales qui nécessite l'intervention des deux gouvernements à la fois. Et donc, le ministère national, quand le gouvernement central est en train de prendre des dispositions, il dépêche évidemment les collaborateurs ou les partenaires au niveau provincial. Et ces collaborateurs, nous les avons fait accompagner d'une délégation locale pour pouvoir comment est-ce qu'on peut récupérer évidemment.
Monsieur Adelar, c'est une situation qui date. Hein, c'est depuis plusieurs années que l'on déplore des morts, n'est-ce pas, sur cette frontière lacustre entre l'Ouganda et la RDC. Une situation qui apparemment n'inquiète nullement les deux pays. On peut même croire que c'est le moindre des soucis des autorités politiques de l'Ouganda et de la RDC.
Ok, je comprends bien. Bon, parler de la mort, la récurrence de la mort, nous n'enregistrons pas encore, mais c'est la récurrence des arrestations arbitraires que nous enregistrons et où les pêcheurs ne sont récupérés, ne sont réunis que par rançon. Nous avons, depuis un certain temps, mené des missions conjointes avec l'Ouganda. Nous avons un projet de gestion des eaux partagées entre l'Ouganda et le Congo. C'est le projet LIS 2. Avec ce projet, nous sommes en train d'établir une loi conjointe qui va nous permettre de gérer conjointement les questions liées aux eaux partagées entre la République démocratique du Congo et l'Ouganda. Et merci. Cette loi est en cours, et elle était même en voie de signature. Malheureusement, le drame s'est passé avant que les derniers compromis ne soient pris.
Merci, nous allons revenir à vous. Honorable Mouindo Nzangi, député national de l'opposition et élu de la ville de Goma au Nord Kivu, vous êtes cadre du MSR, parti membre du G7 et membre de la plateforme Ensemble pour les changements. Vous qui êtes élu de cette province, comment vous analysez cette situation récurrente?
D'abord, je veux faire remarquer à tous les auditeurs de Radio Okapi que je suis vraiment triste et sidéré de voir que le gouvernement congolais, représenté par mon co-débatteur, M. Adelard, ne sait même pas que lorsqu'il y a un incident de frontières, il faut très rapidement saisir par les voies diplomatiques le gouvernement concerné. Je voudrais rappeler ce qui s'est passé. Le sida est né, le sida de frontières est né à la suite de l'arrestation de plusieurs embarcations depuis des pêcheurs de Kavinyonge par la marine ougandaise sur les eaux congolaises du lac Édouard, je précise bien, et qu'il y a eu une intervention de la marine congolaise qui est allée, qui voulait entrer pour parler avec la marine ougandaise pour lui demander de ne pas commettre de forfait. Ils ont été attaqués par la marine ougandaise, ils ont riposté, il y a eu mort d'homme, mort de militaires ougandais tués par des militaires congolais. Lorsqu'il y a un incident de frontières comme celui-là, la règle, c'est que le gouvernement congolais devrait saisir par des voies diplomatiques le gouvernement ougandais de cet incident de frontières qui a impliqué les armées des deux États où il y a eu mort d'homme. Et je vous rappelle d'ailleurs qu'il y a même des armes qui ont été saisies par la marine congolaise et que les armes qui appartenaient à la marine ougandaise, qui jusqu'à présent sont encore à Kavinyonge. Alors, regardez comment le directeur de cabinet du ministre vous dit que voilà, tout ce que le gouvernement a fait, c'est de dépêcher monsieur le directeur de cabinet adjoint du ministre de la Pêche à Kavinyonge pour qu'il aille constater combien il y a eu de morts, pour qu'il aille constater comment ils vont récupérer, mais ça, ce n'est pas votre travail, monsieur. Le premier travail que vous devez faire, c'est de saisir par des voies diplomatiques du gouvernement ougandais pour prévenir ce qui est en représailles à cette attaque des militaires congolais sur les eaux du lac. L'armée ougandaise a riposté à Kia systématiquement tous les pêcheurs qu'ils ont rencontrés sur le lac. Donc je voudrais faire remarquer à ce stade ici que nous sommes en danger et notre pays est en danger. Je crois que notre protection n'est pas vraiment assurée par ce gouvernement ici. Comment pouvez-vous imaginer qu'une armée étrangère pénètre sur le sol des pays souverains et tue des Congolais professionnels dans les métiers de pêcheurs artisanaux et qu'une semaine après, il n'y a même pas un message diplomatique qui est arrivé au gouvernement ougandais? L'ambassadeur ougandais n'a même pas été interpellé sur les faits et que jusqu'aujourd'hui, il n'y a même pas une petite délégation du gouvernement central qui y a rencontré le gouvernement ougandais pour résoudre cet incident de frontières. Donc c'est ça la grande préoccupation. C'est pour cette raison-là que moi j'ai choisi, plutôt que d'écrire à notre gouvernement, d'écrire au président Yoweri Kaguta Museveni, de lui raconter les faits tels qu'ils se sont passés, puisque je sais que l'Ouganda, contrairement à notre pays, c'est quand même un État où il existe des mécanismes sécuritaires qui peuvent très rapidement vérifier la situation et pour apporter une solution.
Oui, honorable Mouine Nzangi. Honorable Mouine Nzangi, vous affirmez que c'est suite à l'apathie, n'est-ce pas, à la passivité du gouvernement congolais face à cette situation, que vous avez pris l'initiative de saisir le président ougandais, et donc vous avez contourné les autorités de votre pays. Et qu'est-ce que vous attendez du président ougandais quand on sait que c'est cette situation que l'on déplore aujourd'hui, c'est une situation qui date, et le président ougandais n'a rien fait sur le plan diplomatique pour prévenir ce genre d'incidents. Qu'est-ce que vous attendez de lui aujourd'hui?
Si on avait un gouvernement qui avait vraiment les deux pieds sur terre, on ne serait pas arrivé à cet incident. Depuis le début de l'année 2017, il y a un groupe de militaires ougandais qui profitent de la passivité de notre gouvernement, afin que notre gouvernement ne protège pas les citoyens, pour rassonner les pêcheurs sur le lac Édouard. Le ministre de la Pêche, M. Panoukou, il est informé, puisqu'il est aussi un élu du village de Kavinyonge. Donc il est informé de la situation depuis le début. C'est une petite question qui peut être réglée par une harmonisation des textes réglementaires entre l'Ouganda et la République démocratique du Congo, comme vous le savez. Le village de Kavinyonge, c'est le seul village de pêche sur le lac Édouard où on respecte scrupuleusement la réglementation sur la pêche, que ce soit la réglementation congolaise ou la réglementation ougandaise. Comme vous le savez, les eaux du lac Édouard ne sont pas balisées pour dire qu'il y a quelque part sur les eaux une frontière congolaise et une frontière ougandaise. Vous pouvez vous retrouver par des faits comme le courant marin ou par d'autres faits comme le vent, que vous avez mis votre filet sur le côté congolais et puis vous retrouvez le matin sur le côté ougandais. Donc cette question de frontière pouvait être résolue si on avait un gouvernement qui s'occupait vraiment des questions de la population, pouvait être résolue par des accords, par des arrangements, puisque la population de Kyangilinga respecte bien la réglementation qui est exigée par l'Ouganda. Mais puisque notre gouvernement n'assiste pas les Congolais, ils ont laissé certains militaires ougandais rationner de manière systématique les pêcheurs congolais, mais ils n'ont rien fait. Ils n'ont rien fait.
Merci.
Et ça se prouve maintenant aujourd'hui, même après le sida, même après qu'il y ait eu beaucoup de morts, puisqu'on parle de 12, mais ce n'est que chiffre de hasard. Il y a encore beaucoup d'autres pilotes qui sont sur le lac.
Merci, honorable.
Qui ont touché par ce drame, mais on ne sait pas exactement dans quel état se retrouverait le pêcheur qui était à bord. Donc je voudrais vraiment préciser à ce stade ici que si cet incident est arrivé, c'est à la suite vraiment d'une mauvaise foi et d'une mauvaise manière de diriger le pays par les gens qui devraient pourtant prendre des mesures préventives depuis longtemps, mais qui n'ont pas pu le faire.
Et vous êtes certain que le président ougandais pourrait changer la situation sur le terrain?
Depuis que j'ai adressé la lettre, j'ai reçu des réponses et je suis informé qu'il y a une commission qui est en train d'être diligentée ici très rapidement à partir de Kambala pour se rendre sur le lac Édouard, puisque moi j'ai demandé que urgemment les marins ougandais puissent abandonner les eaux congolaises du lac Édouard.
Merci.
Parce que vous savez qu'aujourd'hui, même la marine congolaise ne sait plus accéder aux eaux congolaises du lac Édouard. Elles sont plutôt contrôlées par la marine ougandaise.
Oui, honorable, nous allons y revenir.
Nous allons
y revenir. Le professeur Bouendoua Elouga Essi, directeur du Centre de recherche et d'études sur l'Afrique orientale et des Grands Lacs. Vous êtes aussi recteur de l'Université Julius Nyerere de Bukavu, sud Kivu. Des incidents sur le lac Édouard qui occasionnent des morts des Congolais et des Ougandais. Quelle est votre analyse, vous qui maîtrisez bien la situation géopolitique de cette partie de l'Afrique?
Oh bien, je vais d'abord commencer par dire bonjour à l'honorable Mundo et mon ami Mondéré. Mais mon analyse sera, comment dirais-je, multidirectionnelle. Mais je pense que la situation qui se pose dans notre pays découle du fait qu'aucun de nos 9 voisins ne nous respecte plus depuis très longtemps. Et c'est là pour 4 raisons. D'abord que je vais résumer ainsi. C'est que la première, je pense que la République démocratique du Congo, l'ex-Zaïre, est, comment dirais-je, historiquement une zone, un espace, un lieu, une entité, une sorte de terrain vague. Si bien que réellement, on ne peut pas comprendre que nous ayons des voisins qui ne veulent pas du tout comprendre que nous avons des frontières, qu'ils ont des limites. Et c'est que notre pays, la première raison donc, est perçu beaucoup plutôt comme un tas et non pas un tout. La deuxième raison qui fait que cette situation un peu de mépris à notre égard perdure, c'est que tout simplement de l'indépendance de notre pays à ce jour, tous les peuples, donc toutes les nations de cet espace qu'on appelle le Congo, n'ont jamais réussi à créer, à fonder, à fixer, j'allais dire même à forger un État et un esprit d'un État. Et comme on le dit souvent avec un peu d'analyse, si j'en réfère à M. Louis Althusser, un État fonctionne et à la violence et à la répression et à l'idéologie. Or au Congo, il n'y a pas d'idéologie, il n'y a pas de répression, nos forces s'attaquent beaucoup plutôt aux chrétiens qui prient plutôt que à ceux qui envahissent notre territoire. Si bien que, grosso modo, de l'extérieur, personne n'a peur de nous, comme le disait l'honorable Émile Baléké, le Congo est devenu un peu comme un Kikangabalini, comme disait le Bafouliro. Troisième raison, à mon sens, qui fait que vraiment, on a un regard, un peu de condescendance à notre égard, c'est que depuis l'appel de triste mémoire et au risque référence, tous les dirigeants de la République démocratique du Congo tirent leur légitimité d'une sorte d'adoubement étranger. Il peut être un adoubement face au Rwanda, face à l'Ouganda, face à la Tanzanie. Ce qui fait que nos dirigeants acceptent vraiment allègrement de passer sous les fourches codines, de donner l'impression d'aller à Kanosa, de prendre le chemin de Damas pour des actions qui devraient être des actions d'un État. C'est-à-dire que on a une attaque qui dirige contre nous, d'où qu'elle vienne directement nous ciblons et nous sommes en mesure tout simplement de refouler, de repousser et même d'aller jusque à la capitale de chacun de ces pays qui nous agressent. Et donc, je pense que c'est cette sorte de souveraineté de nos autorités qui doivent demander un quitus politique, une sorte de permis de diplomatique, vraiment qui fait que notre pays n'est pas du tout, et je vous parle de l'étranger, n'est pas du tout aperçu comme un État en mesure de faire face à des enjeux qui se posent. Et enfin, je pense que, quatrième raison, et je reviendrai pour peut-être un peu plus d'analyse, un peu plus ciblée, c'est que notre pays, qui est un géant géographique, n'est perçu à l'extérieur que comme un nain économique et pratiquement un néant politique et diplomatique. Si bien que on peut nous agresser, bon, personne ne réagit plus parce que même les gens que nous devrions protéger, ils peuvent nous attaquer. Actuellement, je parle bien du Burundi ou du Rwanda. Je suis originaire du Sud-Kivu et je peux vous dire que depuis plus de 30 ans, on a vendu un espace beaucoup plus grand que 10 fois le Vatican et personne ne s'en inquiète. Et puis bon, ben, et tout le monde c'est comme ça. Je parle bien de Katumba, naturellement. On ne l'a pas vendu, je ne sais pas ce qu'il y en a à rien. Mais grosso modo, voilà toutes ces raisons-là qui explique qu'on a un État faible, affaibli, à genoux et quémandant, et les institutions ne marchent pas, et bien évidemment on ne peut pas se faire respecter.
Voilà, vous dites qu'on a un État faible, affaibli, à genoux, mais est-ce qu'il n'y aurait pas aussi de la part des autorités congolaises une certaine attitude qu'on peut, n'est-ce pas, condamner? On sent une certaine banalisation de ce genre de situation. Vous savez que, comme on nous a rappelé ici, les incidents se sont produits depuis le 6, donc la semaine dernière. Mais bon, il n'y a eu aucune action sur le plan diplomatique qui a été entreprise. Tout ce que le gouvernement congolais a fait jusque-là, c'est d'envoyer le directeur adjoint, n'est-ce pas, du cabinet du ministre de l'élevage et pêche, qui est parti au Nord Kivu, mais sur le plan diplomatique, rien n'a été fait. On n'a pas convoqué l'ambassadeur ougandais à Kinshasa, on n'a pas envoyé le ministre des Affaires étrangères. En fait, on ne sent pas une action de la part du gouvernement congolais sur le plan diplomatique. Comment vous pouvez expliquer cette attitude du gouvernement congolais? Parce que c'est une situation qui est récurrente et qui cause chaque fois des morts d'hommes.
Bon, j'explique cela en termes d'analyse en disant que nos autorités, souvent, ont une légitimité externe et s'en foutent pas mal de la, excusez l'expression, de la légalité interne. Ce qui fait qu'on est en face d'une légitimité et d'une légalité asymétrique à telle enseigne que nos autorités sont tétanisées, ils n'ont pas les moyens, ni les moyens économiques. Un petit État comme la RDC, je l'appelle petit parce que le budget de la RDC est de 5 milliards de dollars, et là je grossis beaucoup, celui de la Tanzanie est de 50 milliards de dollars, celui de l'Ouganda, dans ces chiffres-là encore. Comment voulez-vous qu'un État qui n'a que l'équivalent du budget du Rwanda, et encore, là je minimise, puisse aller dire que bon, nous allons envoyer une marine, nous allons faire quoi que ce soit? On n'a ni les moyens politiques, ni les moyens économiques, ni les moyens diplomatiques, et en plus de cela, on a un président de la République, une assemblée et toutes les institutions qui sont vraiment, bon, ben, vous savez la situation. Je pense actuellement, nous n'avons aucun moyen pour faire face à aucune attaque venant de l'extérieur de quelque pays que ce soit, même pas du Soudan du Sud.
Merci.
Merci. Alors, naturellement, nous devons rester là, et nous faire couler, nous faire incendier, nous faire poursuivre, et puis bon, bah, Nous en resterons là, nous allons pleurer l'honorable Moïndo quand il écrit au président, comment dirais-je, Museveni, c'est quand même totalement anormal. Il aurait fallu qu'il puisse écrire à notre président. Mais il sait très bien que de l'extérieur de la RDC, aucune solution ne sortira de là. Merci. On ne va pas lever son petit bout de doigt pour dénoncer aucune situation. Et c'est totalement dramatique.
Merci professeur, nous allons revenir à vous. Monsieur Adélard Mumbéré, il y a une réflexion à laquelle vous allez réagir, elle vient de Kinshasa.
Pasteur Munguru Kuba depuis la ville province de Kinshasa. Cette énième situation meurtrière dans la partie est de notre pays dénote de la léthargie du commandant suprême des FARDC. Combien de fois l'armée ougandaise, sous la présomption des ADF, ne cesse de traverser les frontières de la RDC, tuant, pillant et emportant nos compatriotes. Celle rwandaise enlève nos militaires commis sous nos frontières en pleine journée pour les maltraiter sur leur sol. Et celle burundaise traverse notamment la plaine de la Ruzizi pour faire la loi génocidaire sur les sols congolais, comme nous renseignent les récents massacres. C'est peut-être cette léthargie qui pousse l'honorable Moïndo Nzangi, qui même président de l'Assemblée nationale congolaise, il aurait dû initier une motion quant à ceux, surtout qui sont en pleine session extraordinaire, malgré que nous savons la façon dont les choses s'y passent.
Monsieur Dilar Mumbéré.
Oui, merci monsieur le journaliste. Comme vous parlez de l'agression par les Ougandais sur les sols congolais ou la population congolaise, et que parce que les députés sont en vacances parlementaires et que c'est cela qui pousserait à l'honorable Moïndo Nzangi d'écrire au gouvernement ougandais ou au président ougandais, je pense que ça serait, fallait bien le dire, que Moïndo Nzangi est en train de visser la procédure. Parce qu'il n'est pas dit que nulle part, je pense dans leur texte, il n'est pas autorisé qu'un député national d'un pays quelconque comme la RDC s'adresse directement au président, au chef de l'État des pays voisins, alors qu'il est soit peut-être au pays, il connaît qu'il y a un président de l'Assemblée, il connaît qu'il y a un président dans sa République. Il préfère s'adresser directement au président de l'Ouganda, je ne sais pour obtenir quel résultat, mais aussi...
Vous avez suivi, monsieur Adélard,
Oui.
Vous avez suivi l'honorable Nzangi qui explique son geste par l'apathie, par la passivité du gouvernement congolais face à cette situation.
Oui, la passivité, il est député national. S'il a trouvé qu'il a passivité au gouvernement congolais, il aurait dû s'adresser carrément au gouvernement et pousser la manivelle pour le gouvernement, pour que le gouvernement réagisse. Je pense que ce n'est pas, bon, sans pour autant que ça soit une attaque, mais ce n'est pas, il n'est pas aussi à son premier forfait parce que, deux fois, l'honorable ne pouvait pas penser que, comme si il aime beaucoup plus la population du lac que le ministre lui-même qui est fils du terroir ou qu'il aime le pays plus que tout le monde. L'honorable devait savoir que son pays, c'est la République démocratique du Congo. Et quand il y a des problèmes à arranger dans le pays, il a été élu pour réveiller le gouvernement congolais, ça nous reconnaissons, mais pas pour faire des adresses au président voisin. Je crois que là, encore une fois, comme il a reconnu que c'est la voie diplomatique qui est la meilleure pour juger, et pour résoudre cette question récurrente entre l'Ouganda et le Congo, je crois qu'il est là. Il aurait dû s'adresser au gouvernement congolais pour ne pas blesser les mêmes démarches diplomatiques dont il est en train de faire allusion et qu'il est en train d'adorer maintenant.
Merci, M. Adélard.
C'est vrai.
Merci, nous allons vous redonner la parole. Nous allons vous redonner la parole pour vous permettre de conclure. Honorable Moïndo Nzangi, il y a aussi une réflexion à laquelle vous allez réagir, elle vient de Kisangani.
C'est Louis Ngolo, j'interviens depuis la ville de Kisangani. Par rapport à cette situation, plusieurs lectures peuvent être envisagées et qui seraient proches de la réalité. D'abord, le besoin de survie qui anime et habite chaque peuple du monde. Ensuite, les causes politiques qui ne disent que difficilement leur nom. Cependant, pas plus longtemps, le pouvoir de Kinshasa, par le biais de son porte-parole, après les déclarations des trois chefs d'État faites à Paris, s'est déclaré prêt à répliquer à tout genre d'attaque. N'est-ce pas, le moment est propice? Ainsi, la sécurité et la vie des Congolais me semblent être sacrifiés pour des intérêts mesquins et politiques. En conclusion, la démarche de cette députée est sans suite, vu que le président ougandais n'est pas censé protéger, moins encore rechercher les biais des Congolais. Mais il est là pour servir aux intérêts de son peuple.
Mouindo Nzangi.
Oui, merci beaucoup. Je suis d'accord avec l'analyse de notre frère de Kisangani. Mais je voudrais redire ceci. Si j'ai pris l'option d'écrire au président ougandais Yoweri Kaguta Museveni, c'est puisque j'ai compris qu'il était mal informé. Mal informé parce que le gouvernement congolais n'a pas donné la vraie information. Donc l'information qu'il avait, lui, c'était seulement que les marais ougandais ont dit qu'ils ont fait face à une attaque armée sur le lac Edouard, sur leur territoire. Ils n'ont pas fait mention du fait qu'ils rassemblent la population. Ils n'ont pas fait mention du fait qu'ils ont commis un massacre qui s'apparente à un crime contre l'humanité à des populations civiles non armées et inoffensives. Donc, je l'ai saisi parce que notre gouvernement ne l'a pas fait. Notre gouvernement devait ne faire pas de voies diplomatiques, ne l'a pas fait. Je voudrais d'ailleurs souligner à part ça que nous sommes en danger. Nous sommes vraiment abandonnés. Si vraiment dans un incident aussi grave où une armée étrangère vient attaquer des Congolais sur leur propre territoire, la seule réponse du gouvernement, c'est d'envoyer un directeur de cabinet adjoint des ministres de pêche se promener pendant une semaine dans le village de Gavinongue. C'est pas vraiment la réponse que le gouvernement accorde à une question aussi importante que celle-là. Alors nous sommes en danger. Alors nous sommes abandonnés. Notre sécurité n'est pas assurée.
Honorable Mouindo Nzangi.
Donnez à la place de ces militaires congolais.
Honorable Mouindo Nzangi.
Donnez à la place de ces militaires congolais. Oui.
Oui, quand vous dites que vous avez mené la démarche, tout simplement parce que vous estimez que le président Yoweri Museveni est mal informé, mais il a tout un service de renseignements qui est censé, n'est-ce pas, lui apporter toutes les informations. Et ce n'est pas la première fois que ce genre d'incident se produise sur le lac Edouard, ça fait des années. Et donc vous voulez dire que depuis toutes ces années, le président Museveni est mal informé, c'est pourquoi chaque fois la marine ougandaise réprime dans les sangs, n'est-ce pas, chaque fois quand il y a eu des incidents sur cette frontière.
Oui, je crois que j'ai raison. Puisque la meilleure information, l'information contradictoire qu'elle va recevoir viendrait des services congolais. C'est pour cela qu'à Beni, il y a un mécanisme de vérification conjoint militaire entre le gouvernement congolais et le gouvernement rwandais, et le gouvernement ougandais. Le mécanisme existe, il y a des officiers de renseignement ougandais sur le sol congolais et des officiers de renseignement congolais sur le sol ougandais pour communiquer des informations en rapport avec la sécurité. Ce mécanisme-là n'a pas été fait. Il y a le mécanisme conjoint de vérification qui, pour le saisir, on n'a même pas besoin de budget comme l'a dit le professeur. On a besoin seulement que le gouvernement congolais le saisisse pour la vérification des incidents de frontières, comme ça a été le cas à Goma ou à Tsuyen de Miragongo et dans les parcs. Mais cela n'a pas été fait. Ça fait une semaine que le gouvernement congolais n'a pas saisi ce mécanisme-là, alors que ce mécanisme-là est assez travaillé tout le temps à chaque fois qu'il y a un incident de frontières. Donc,
merci.
Pour vous montrer la léthargie, en fait, qui s'apparente de peu à une insouciance de notre gouvernement, qui ne protège pas les sols congolais.
Merci.
Lorsque des militaires ou les militaires étrangers attaquent des populations congolaises sur leur territoire, ça s'appelle la violation de la souveraineté d'un État.
Merci, honorable. Merci, nous allons vous redonner la parole. Professeur Bouendo Ailuga, et si vous allez aussi réagir à ces commentaires qui viennent de Kananga?
Parce que non, je vous appelle de Kananga au quartier central. Aussi longtemps que les accords de Vienne soulignent l'intangibilité et l'inviolabilité des frontières de chaque État souverain, Voilà une preuve éloquente des violations de ces accords et aussi de la charte régissant les États membres du pays de la CIRGL. Car comment expliquer que les affrontements entre les FRDC et une armée étrangère se déroulent sur le sol congolais? Ceci traduit non seulement l'absence de l'autorité de l'État à nos frontières qui sont poreuses, mais également l'hypocrisie qui règne au sein de la CIRGL. Ainsi, je pense que l'honorable Moïndo Zangi devrait interpeller le Premier ministre de la Défense nationale congolaise en vue d'obtenir des éclaircissements, car nos compatriotes ne peuvent pas mourir comme des bêtes sur le sol de leurs ancêtres. Pour clore, seule la voie diplomatique reste la meilleure solution pour calmer cette hémorragie sécuritaire à l'est du pays. Dans le cas contraire, la situation ira de mal en pire.
Professeur Bouenois.
Oui, je partage en partie l'analyse et les vues de notre frère de Kananga, mais je reste un peu doctrinaire sur la question parce que je me souviens que Nyerere, en face de cette même Ouganda en 1978-19, par là, il disait ceci, si un serpent entre chez vous, que vous arrivez à mettre de l'eau chaude dans son trou et qu'il sorte, vous n'allez pas le laisser partir comme ça. Vous devez le suivre jusqu'à ce que vous puissiez quand même totalement l'anéantir. Et moi, je pense que les voies diplomatiques, les conciliatures, tout cela, ça ne sert pas à grand-chose parce que tous nos voisins nous méprisent, comme je le disais tout à l'heure. Et la vraie question qu'il est urgent de traiter, c'est de savoir si vraiment nous voulons faire un État, un vrai État, ou bien nous allons rester à la merci économiquement, politiquement, culturellement des autres. Et c'est ça, moi, je pense que ce qu'on ne voit pas, parce que vu de l'extérieur, sincèrement, le Congo ne fait peur à personne. Et s'il fait peur à personne, la marine ougandaise va entrer, Gatumba va partir indéfiniment, le lac Tanganyika et tout le monde. Ok, mais je ne suis pas pour cette option-là. Je suis pour une option d'un État qui se défende. Qu'on se défende pour coup. Il n'est pas question d'attendre, d'aller consulter qui que ce soit. Mais je le comprends très bien parce que la légitimité, disais-je, de nos autorités vient de l'extérieur à telle enseigne que la légalité interne, à la limite, leur importe peu.
Professeur.
Mais pour en finir sur Nyerere, comme je le disais, parce que ça a été un cas historique entre l'Ouganda Tanzanie, ce qui a forgé un respect absolu de l'Ouganda par rapport à la Tanzanie, ce que Nyerere disait, sababu ya kumpiga tunayo, nia ya kumpiga tunayo, na uwezo wa kumpiga tunayo.
Mon cher ami,
vous connaissez tous bien le Swahili.
Professeur.
Je pense que vous comprendrez que nous ne pouvons pas tergiverser pour un
coup. Oui, professeur, nous allons commencer à conclure, n'est-ce pas, nous sommes à la fin de l'émission. Qu'est-ce faut-il pour solutionner de manière convenable et durable cette question? Nous savons que les problèmes de délimitation des frontières se posent toujours sur les lacs Edouard, vous avez suivi le député Moïndo Zangi qui a dit qu'il n'y avait pas de balisage, n'est-ce pas, sur ces lacs. Qu'est faut-il pour solutionner ce problème? Pourquoi on n'arrive toujours pas à délimiter cette frontière?
Délimiter, c'est une question technique. Là, on pourrait y arriver. Mais on délimite par un certain nombre de rapports de force. Or, dans ce jeu-là, dans cette, le rapport de force nous sont totalement défavorables politiquement, économiquement, diplomatiquement et culturellement. Je ne vois pas comment on va faire, mais bon, il faudra bien qu'on repense l'État et on y arrivera.
Merci. Monsieur Adelard Mumbere, à part le fait que le gouvernement vous a envoyé sur le terrain pour que vous puissiez aller vérifier les faits, qu'est-ce que le gouvernement envisage de faire pour arriver à solutionner de façon durable ces problèmes à la frontière entre l'Ouganda et la RDC sur le lac Édouard?
Le gouvernement congolais est en train de se rendre en Ouganda pour la mission d'abord de libérer urgemment les otages, dont 92 pêcheurs arrêtés, pour récupérer et obtenir l'autorisation de récupération des corps sans vie qui vivent encore sur les eaux congolaises afin de les enterrer avec hommage, mais aussi présenter des condoléances aux populations victimes de cette barbarie que nous provoque l'Ouganda.
Merci.
Mais aussi faire des échanges
pour que la paix durable soit entre le Congo et l'Ouganda.
Merci monsieur Adelard. Merci, nous sommes à la fin de l'émission. Honorable Mouindou Nzangui, votre conclusion.
Non, il faut qu'on ait une harmonisation de la législation sur les lacs. Il faut qu'on ait des patrouilles mixtes entre les Congolais et les Ougandais. Mais je ne suis pas d'accord que le gouvernement parte à l'Ouganda pour aller négocier la récupération des corps sur les eaux congolaises. Ça me fait vraiment la honte. Il faut que le gouvernement
Merci. Prenne ses responsabilités. Merci, c'est la fin de cette émission. Merci à Aritier Sijakala qui était à la technique, Alain Irung et Donoma Dimba qui ont réalisé cette émission sous la supervision de Pelé Kipela Mondo, à la présentation Guy Maté. Merci et bon suite de programme sur Radio Capi.